Protégez vos biens, vos proches et votre voisinage avec l'assurance habitation de Suno Assurance qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Diarangay.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans Priorité Santé, nous parlons de la grossesse. 9 mois durant lesquels le corps de la femme va connaître des spectaculaires bouleversements. Les joies de la maternité sont sans cesse louées et la grossesse, étape préalable, est vécue de façon variable d'une femme à l'autre. Certaines adorent la sensation de porter leur enfant, d'autres n'aiment pas voir changer leur corps. Et les plus malchanceuses sont confrontées à des complications avec des grossesses à risque ou pire, une fausse couche qui termine dramatiquement la aventure. Mal de dos, nausées, hémorroïdes, régime alimentaire strict, rétention d'eau, la grossesse peut s'accompagner d'une multitude de tracas au quotidien, du désir d'enfant au retour à la maison, en passant par le déroulement de la grossesse mois par mois. Les futures mamans se posent de nombreuses questions. Comment rendre cette période plus agréable, la plus agréable possible? Quelles sont les précautions à prendre? L'auteur du grand livre de ma grossesse est en direct des studios de France Bleu Hérault. D'ailleurs, nous les remercions vivement. C'est le professeur Bernard Hédon. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de gynécologie obstétrique et de médecine de la reproduction, ancien président également du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, et donc le co-auteur de l'ouvrage Le grand livre de ma grossesse aux éditions Erol, un livre qui, nous le verrons, donne toutes les précautions importantes à prendre pour la santé de la maman et du bébé. Et nous retrouverons au Niger docteur Madeleine Garba, gynécologue obstétricienne à la maternité Isaka Gazobi, enseignante à la faculté des sciences de la santé de Niamey. En fin d'émission, nous serons en ligne avec Dr Thierry Bourg, président du syndicat national des ophtalmologistes de France. Le SNOF s'oppose à la mise en place de téléconsultations d'ophtalmologie dans les magasins d'optique. Les détails à suivre dans Priorité Santé. Et n'hésitez pas à nous appeler. Surtout vous, mesdames, vous êtes concernées. Nous attendons particulièrement vos témoignages et questions. Le numéro de Priorité Santé, 33 1 84 22 75 75.
Priorité Santé sur RFI.
Professeur Bernard Hédon, 8e édition du grand livre de ma grossesse, 500 pages, 140 schémas, 45 échographies, une application, des vidéos, des astuces, des conseils, des témoignages avec l'expertise de médecins et d'experts. Il est vendu comme un compagnon de route, mais finalement, il fait pas un peu peur, ce guide? Ou alors il y a toujours autant d'interrogations autour de cette fameuse grossesse?
Non, je ne pense pas qu'il fasse peur. D'abord parce qu'il a une très belle présentation. Il est écrit aussi à l'aide de journalistes, donc qui mettent en page et qui relisent tous nos textes médicaux. À la base, c'est un livre donc écrit par des médecins, puisque c'est le livre officiel du Collège national des gynécologues et obstétriciens. Donc, il véhicule un message médical, mais qui est bien sûr mis en forme et présenté pour le rendre parfaitement intelligible et surtout ludique, intéressant à lire pour suivre la grossesse et pour vivre pleinement sa grossesse. Donc c'est vraiment un outil que l'on considère comme important pour la femme enceinte, qui sert de relais entre le côté médical et puis le côté humain du quotidien, relais qui nous paraît très très important pour éviter qu'il y ait une césure entre ce que vit la femme et puis l'aide que peut apporter le médecin.
C'est vrai qu'il y a un vrai mystère, hein, une sorte de méconnaissance avec les grossesses, professeur. Les questions les plus fréquentes, quelles sont les inquiétudes des femmes enceintes qui viennent vous voir?
Alors on retrouve très souvent le même type de questions, parce que pour chaque femme c'est une aventure nouvelle, un domaine inconnu que son corps explore et qu'elle vit avec son corps et sa vie de tous les jours. Donc les questions les plus fréquentes, c'est: est-ce que je peux continuer à travailler? Est-ce que je peux faire tel ou tel le sport? Qu'est-ce que je dois manger? Est-ce que je peux saler mes aliments comme d'habitude ou il faut que je fasse attention? Combien de poids faut-il que je prenne? Vous voyez, toute une série de questions qui sont d'ordre de la vie de tous les jours, mais qui peuvent avoir effectivement une implication médicale.
Vous commencez d'ailleurs dans le livre par parler des consultations préconceptionnelles. Pourquoi est-ce important d'aller voir un gynécologue avant de faire un enfant?
D'abord parce que il y a un examen gynécologique normal de dépistage qu'il vaut mieux faire avant la grossesse plutôt que pendant la grossesse. Si on doit trouver quelque chose, il vaut mieux l'avoir dépisté avant. Ensuite, la deuxième raison, c'est qu'il y a une recommandation qui est faite, c'est d'accompagner le démarrage de la grossesse par la prise d'acide folique. Bon, ça paraît un petit peu trivial comme ça, c'est nouveau, on a tous, et notamment moi à mon âge, je suis dans la soixantaine, je n'ai pas été conçu sous acide folique, mais il est démontré qu'on diminue de manière significative le taux de malformations qui sont assez graves, qui concernent le système nerveux central, en se mettant donc sous une supplémentation d'acide folique pendant 2 à 3 mois
quoi,
avant le démarrage de la grossesse. Ce sont des vitamines. C'est des vitamines de la classe B. Et donc, effectivement, c'est sans aucun effet secondaire, sans danger. Et c'est tellement simple de réduire ainsi un petit peu son risque de malformation. Alors, bien sûr, on ne veut pas, à travers ce message, placer la grossesse comme étant une maladie et qu'il faut déjà l'encadrer d'un point de vue médical. Voilà. Simplement, statistiquement, on sait que ça a une efficacité, comme il y a d'autres conseils qui peuvent être donnés à celles qui ont une pathologie, notamment le diabète. On sait qu'il vaut mieux démarrer la grossesse quand le diabète est parfaitement bien équilibré, qu'on a bien équilibré son régime, qu'on a bien équilibré son traitement, de façon là aussi à diminuer le risque malformatif qui est dans la population générale de l'ordre de 3%. Donc vous voyez que c'est quand même, sur le nombre de grossesses, c'est quand même un risque qui existe. Et quand on peut diminuer ce chiffre-là, ben, il vaut mieux le faire.
Et concernant ces vitamines, cet acide folique dont on parle, on le poursuit durant la grossesse ?
Non, uniquement pendant le premier trimestre de la grossesse, pendant le temps de la formation du bébé. C'est une recommandation qui nous est faite à nous médecins de le prescrire systématiquement à celles qui désirent une grossesse, parce que c'est validé sur le plan scientifique. Mais maintenant, il faut relativiser aussi le message. Ce n'est pas parce que l'on aurait démarré une grossesse sans avoir pris d'acide folique que pour autant on est dans la catastrophe. Bien entendu,
absolument,
ça continue à être une belle aventure. Voilà, donc.
Du coup, comment mettre toutes les chances de son côté alors quand on a décidé de concevoir cet enfant ?
Voilà, ben c'est ce que je vous dis. Se mettre dans une bonne disposition psychologique et corporelle, avec un bon équilibre alimentaire, un bon équilibre de sa vie sportive et de travail. Et puis, bon, ben prendre cet acide folique qui est recommandé. Voilà. Et puis, on démarre la grossesse gentiment. Malheureusement, il y a certaines patientes qui ne vont pas réussir à démarrer la grossesse comme normalement ça doit se produire, puisque, bon, statistiquement, celles qui désirent être enceintes, elles sont enceintes dans les 1, 2, 3, 4 mois, suivant qu'elles ont plus ou moins de chances pour que la grossesse débute. Mm-hmm. Tout ça, c'est parfaitement normal. Mais il y en a certaines qui ont moins de fertilité et chez qui ça peut prendre 6 mois, voire 1 an. Chez celles-là, eh ben, il est difficile de maintenir en permanence l'acide folique et puis les autres recommandations que l'on vient de faire. Bah, donc, ça montre bien que le message que je donne là est quand même très relatif.
Mais du coup, à quel moment faut-il consulter lorsqu'une grossesse tarde à venir ? Cette question légitime, peut-être que de nombreux couples se la pose. Peut-on donner quelques conseils pour éviter de consulter dans la précipitation ou au contraire trop tard ?
Ouais, ben la réponse, vous savez, c'est quand on est inquiet. Le médecin est là pour répondre aux interrogations de la patiente. Donc quand elle est inquiète, qu'elle a des questions et qu'il reste sans réponse puisqu'elle a cette inquiétude, ben, faut pas hésiter qu'elle l'exprime. Alors ça va être le rôle du médecin, hein, de mettre en avant les facteurs favorables et les facteurs moins favorables, et à partir de là, avec la patiente, de décider si le moment est venu de démarrer quelques explorations ou pas. Le plus souvent, d'ailleurs, pour assurer, on fait ce début d'exploration. Donc il ne faut pas hésiter quand on a une inquiétude.
Et vous abordez dans l'ouvrage du grand livre de ma grossesse une question qui est très importante, celle des grossesses précoces. Quels sont les risques, professeur ?
Vous parlez des grossesses chez les toutes jeunes filles.
Oui, les grossesses précoces, exactement.
Chez l'adolescente. Oui. Alors, il n'y a pas de risque physique. Hein. C'est dans notre société, le problème n'est pas là. Si on doit parler du risque de la grossesse, il va en augmentant au fur et à mesure de l'âge. Et donc, c'est plutôt les femmes d'âge plus avancé qui vont avoir un risque plus élevé. Donc, ça n'est pas un risque médical, un risque physique. C'est bien sûr un risque social, hein, de socialisation de cette jeune fille avec un enfant. Dans notre pays, en France, c'est peu fréquent. Les grossesses chez les toutes jeunes filles, ça arrive bien entendu, hein, et c'est bien encadré. Il y a les services sociaux et psychologues nécessaires. Mais c'est moins fréquent que dans d'autres pays, notamment si on compare notre situation à celle de la Grande-Bretagne.
Existe-t-il un bon âge pour tomber enceinte ?
Non, il y a pas de bon âge. Si on parle de la précocité, c'est quand on se sent prêt, qu'on est amoureux, que l'on a une vie affective stable, que l'on a éventuellement, et c'est bien sûr nécessaire, des moyens de vivre pour pouvoir éduquer correctement l'enfant. Et puis là, c'est une décision qui, heureusement, fort heureusement, continue à appartenir à la femme, au couple et à la femme notamment. Donc, il n'y a pas de conseil à donner. Par contre, oui, il y a un bon âge sur l'âge de la fertilité. Oui. L'âge de la fertilité démarre avec la puberté. Et puis ensuite, il diminue, la fertilité va en diminuant de manière assez rapide. Donc, c'est là où il faut faire un petit peu attention, la fameuse horloge biologique, mais là maintenant, dont on entend très souvent parler, notamment du fait de l'avènement de l'assistance médicale à la procréation, et on estime que à 35 ans, bon, on peut bien sûr continuer à être enceinte et avoir une grossesse, mais on a une fertilité qui est divisée par 2. À 40 ans, elle est divisée par 4. Voilà, donc s'il devait y avoir une fourchette d'âge, on dirait entre le moment où on se sent prête, si je devais féminiser la chose, et la quarantaine.
Ben là, on vient de parler de la fameuse horloge biologique des femmes. Est-ce que l'âge du père compte aussi, professeur ?
Bien sûr, nous sommes tous des êtres humains, mais il s'avère que du côté masculin, il y a un décalage d'une quinzaine d'années par rapport à ce qui se passe chez la femme. Et donc, c'est un phénomène biologique. La fertilité de l'homme va en diminuant aussi. Le risque malformatif induit par une grossesse par des pères plus âgés est plus important, mais avec un décalage d'une quinzaine d'années par rapport à la femme. Je viens de dire, avant la quarantaine pour la femme, je dirais avant 55, maximum 60 ans pour l'homme.
Professeur Bernard Hédon, nos auditrices et auditeurs ont de nombreuses questions pour vous. Tout de suite, place à leurs questions. On a Audi qui nous appelle de Libreville au Gabon. Audi, bonjour.
Bonjour. J'ai une préoccupation. Je voudrais savoir... Il est possible de faire un enfant un an après la césarienne. Il n'y a pas de risque, je voudrais savoir.
Oui, alors je vous réponds. Bien sûr, je vous réponds positivement. Il n'y a pas de recommandation médicale particulière de délai par rapport à une césarienne antérieure. D'abord, la première raison, c'est que il y a un délai de l'ordre de 9 mois entre la césarienne qui a eu lieu et puis le nouvel accouchement si une nouvelle grossesse démarre rapidement. Il y a minimum 9 mois. Or, le délai de cicatrisation, ce qu'on estime, de cicatrisation, de formation d'une cicatrice solide, est de l'ordre de 2 mois. Donc, vous voyez qu'on a une marge de sécurité qui est suffisante, d'où le fait qu'il n'y a pas vraiment de recommandation. D'ailleurs, ça peut se généraliser, c'est pas seulement à propos d'une césarienne antérieure, mais ça peut être aussi, si vous m'étendez la question, par exemple, à l'arrêt d'une contraception. Est-ce qu'il y a un délai à attendre entre l'arrêt de la contraception et puis la conception ? Non. D'un point de vue médical, il n'y a rien de prouvé qu'il faille respecter un délai quelconque entre une fausse couche, une contraception ou une césarienne par rapport au démarrage d'une nouvelle grossesse. Donc encore une fois, c'est principalement la disposition psychologique de la patiente et son désir et sa décision qui prime.
Professeur, ce qui est intéressant avec la question d'Audi, c'est que ça pose aussi la question de la césarienne. On a eu des questions autour de cette césarienne. Est-ce que, par exemple, l'accouchement qui va avoir lieu après, l'autre enfant qui va naître également par césarienne ? Est-ce que c'est obligatoire ?
Non, pas obligatoirement. Non, 50% des accouchements qui suivent une première césarienne ont lieu par voie basse. Mais si vous regardez l'autre côté, l'autre facette de ce que je viens de dire, ça veut dire que 50% vont à nouveau avoir lieu par césarienne. Autrement dit, celle qui a eu une première césarienne est plus à risque de nécessiter d'avoir une deuxième césarienne pour son deuxième accouchement qu'une femme qui n'a encore jamais eu de césarienne. Elle a ce qu'on appelle un utérus qui est un peu fragilisé, ce qu'on appelle un utérus cicatriciel. Mais c'est pour autant pas obligatoire, puisque une patiente sur deux va quand même pouvoir accoucher par voie basse.
Merci beaucoup, Audi, d'avoir appelé en direct de Libreville, et surtout bon courage et bonne suite pour cette aventure peut-être heureuse. On va prendre également en ligne Gaëlle qui nous appelle de Douala au Cameroun. Gaëlle, bonjour.
Bonjour.
Vous avez la parole.
Oui, bonjour.
Alors, bonjour monsieur. Il y a un an, j'ai fait un œuf clair et on ne m'a pas expliqué ce que c'était. C'est vrai, je ne m'y attendais pas parce que je suis dans une optique où je ne veux pas avoir d'enfant pour le moment. J'ai 31 ans. Donc, je suis allée à l'hôpital, bon gré mal gré. monsieur m'a fait savoir que, bon, j'ai un œuf clair après avoir passé ses derniers examens. Et puis, il me dit, il faut faire une absorption. Juste le temps de lui demander, mais c'est quoi? Il dit que, donc tout de suite, il a arrêté. Il dit qu'il faut passer prochainement pour votre rendez-vous pour faire une absorption. Bon, je n'ai pas eu le temps de lui demander quoi que ce soit parce qu'il m'a dit qu'il était très occupé.
Alors, moi, je vais essayer de vous répondre. Je vais essayer de vous répondre et puis de prendre le temps nécessaire. Non, c'est quelque chose de très fréquent. Malheureusement, c'est une fausse couche. Voilà. C'est un embryon qui se développe mal et qui fait que la grossesse ne peut pas évoluer. Dans la conception, dans l'œuf initial, il y a deux parties. Il y a une partie qui va donner le placenta et puis il y a une partie qui va donner l'embryon. Et dans le phénomène œuf clair, le placenta se développe, mais pas l'embryon. Ce qui fait que la grossesse ne peut pas évoluer. Il n'y a pas de bébé qui puisse se développer à partir de là. D'où le terme de œuf clair, c'est d'œuf blanc en quelque sorte, ou d'œuf vide où il n'y a que la partie placenta. Donc il y a tous les signes de la grossesse, mais malheureusement cette grossesse va inéluctablement aboutir à un avortement spontané, à une fausse couche du premier trimestre. C'est très fréquent parce qu'une grossesse sur cinq bien, est sélectionnée en quelque sorte au premier trimestre de la grossesse sur le fait qu'il y a une anomalie quelconque et que ça aboutit à une fausse couche. Ça ne gêne pas le pronostic futur, c'est-à-dire qu'une prochaine grossesse n'a pas plus de risque d'être à nouveau anormal que n'importe quelle autre grossesse. Donc vous avez toutes vos chances d'avoir une grossesse normale, bien que ayant malheureusement débuté par la malchance d'avoir un œuf clair. J'espère avoir été suffisamment clair, que vous avez compris.
Juste, professeur Gaël se demande aussi s'il y a des causes de cette fameuse fausse couche.
L'anomalie de la conception, vous savez, le processus de fécondation et de mélange génétique des chromosomes peut connaître des ratés, comme partout dans le monde. Hein. Si vous regardez le règne animal, ou surtout le règne végétal qu'on a sous les yeux, les arbres fruitiers, vous avez beaucoup de fleurs, et vous avez beaucoup moins de fruits que de fleurs, parce que beaucoup de fleurs n'ont pas été fécondées, beaucoup d'autres ont été fécondées, mais ont donné un tout petit embryon de fruit qui ne s'est pas développé, et seul quelques-uns se développent, et c'est exactement la même chose dans toutes les espèces animales et en particulier notamment l'espèce humaine.
Professeur Edon, bon, malheureusement on a perdu Gaëlle en ligne, néanmoins elle avait une autre question à vous poser. Comment augmenter ses chances d'avoir des jumeaux? Alors, est-ce que c'est possible déjà?
Non. Il y a des traitements de fertilité qui, par le biais de la stimulation de l'ovulation, malheureusement, se complique parfois d'une grossesse qui n'est pas tout à fait une grossesse normale, c'est-à-dire une grossesse gémellaire. Mais j'ai bien employé le mot de complication. Ça n'est, quand on fait un traitement de stimulation, c'est pour aider la femme à être enceinte, et on veut l'aider à avoir la grossesse la plus normale possible. Or, la grossesse normale, c'est une grossesse monofétale. C'est comme ça, dans l'espèce humaine, la grossesse normale est unique. De temps en temps, spontanément, de temps en temps aussi, sous l'effet des traitements, il y a une grossesse gémellaire, voire ce qu'on appelle une grossesse multiple, c'est-à-dire plus que gémellaire, et dans ce cas-là, il y a des conséquences obstétricales qui peuvent être graves, et dans tous les cas, on considère ces grossesses comme des grossesses à risque. Donc il n'est pas conseillé de chercher à avoir une grossesse gémellaire en employant des traitements qui ne sont pas faits pour ça, qui sont faits pour traiter la stérilité, pour augmenter ses chances d'avoir une grossesse gémellaire. Et moi, ce que je souhaite à cette dame, c'est d'avoir une grossesse normale, monofétale, c'est elle qui donne le moindre risque obstétrical. Si la nature fait qu'elle a une grossesse gémellaire, elle en sera très heureuse et moi j'en suis heureux pour elle et on fera avec, mais il y a un peu plus de risque.
On lui souhaite en tout cas, et j'espère qu'elle nous a écouté en direct de Yaoundé. Safiatou est également en ligne avec nous. Safiatou, bonjour, vous nous appelez de Guinée?
Oui.
Safiatou, on vous écoute.
Oui, bonjour.
Je voulais juste savoir si une femme enceinte peut faire le rapport sexuel avec son mari.
Oui. Oui, il n'y a pas de contre-indication au rapport sexuel en cours de grossesse. Il n'a jamais pu être prouvé que le fait d'avoir des rapports pendant la grossesse crée un risque d'accouchement prématuré ou d'anomalie quelconque de la grossesse. Donc les seules rares patientes chez qui on déconseille le rapport sexuel, c'est chez celles qui ont un antécédent d'accouchement prématuré grave, avec parfois un col qui est très raccourci, voire même qui est largement ouvert. Et dans ce cas-là, donc par prudence, on déconseille les rapports sexuel. Mais sinon, dans l'immense majorité des cas, non, il n'y a pas de contre-indication.
Professeur, on a eu d'autres questions, notamment sur Facebook, autour de cette sexualité durant la grossesse. Peut-être pour compléter la question de Safiatou, on peut avoir peur de déclencher l'accouchement, nous dit Rose. Et en fin de grossesse, est-ce risqué d'avoir des relations sexuelles ?
Non, la réponse reste la même, même si la femme a un orgasme, donc avec des contractures, bien caractéristiques de l'orgasme, ça ne déclenche pas un accouchement, il n'y a pas de contre-indication.
Donc on peut avoir des rapports sexuels jusqu'à la fin de la grossesse. Oui. Safiatou, vous avez d'autres questions ?
Oui, c'est
bon. Merci beaucoup d'avoir appelé en direct de Guinée.
RFI.
On va aller tout de suite en direction du Niger où le docteur Madeleine Garba est en ligne avec nous. Bonjour docteur.
Bonjour madame.
Vous êtes donc gynécologue obstétricienne à la maternité Isaka Gazobi. Vous êtes également enseignante à la faculté des sciences de la santé de Niamey. Bonjour d'ailleurs à tous nos auditeurs qui se trouvent au Niger. Docteur Madeleine Garba, à partir de quand sont suivies les femmes enceintes au Niger ?
Merci d'abord pour cette invitation. Nous saluons toute l'équipe de Priorité Santé et monsieur le professeur. Les femmes, je parle d'une manière générale, hein, les femmes venant qui ne sont pas surtout scolarisées, mais elles viennent assez tardivement, hein, souvent après le troisième mois, voire le quatrième, parce que certaines ne consultent pas du tout. Donc, ce qui pose un problème dans le suivi, dans la survenue des complications.
Et par qui sont-elles suivies ?
Ça dépend des milieux. Pardon ?
Par qui sont-elles suivies à partir de ce troisième mois environ ?
Oui, mais ça dépend de leur résidence. Si elles sont au niveau de village, ben souvent par des infirmiers. Et la plupart par des sages-femmes. Et bon, comme on n'est pas nombreux au niveau des gynécologues, on n'est qu'une centaine. Donc vous voyez la proportion de femmes qui peuvent être suivies par les gynécologues. Donc la majorité quand même sont suivies par les infirmiers et par les sages-femmes.
Et quand elles sont suivies, docteur Madeleine Garba, comment se passe le suivi des grossesses ?
Bon, généralement, le suivi, on préconise, hein, on n'est pas encore, disons, les nouvelles recommandations de l'OMS préconisent 8 consultations, mais pour le moment, 4 consultations. Mais bon, le problème, c'est qu'il faut que ces consultations soient de qualité, c'est ça le problème. Mm-hmm. Parce que même si ce n'est que 2 consultations, mais il faut qu'elles soient de qualité. Parce qu'on ne peut pas concevoir, par exemple, une consultation sans qu'on ait plein de la tension artérielle. Vous voyez, donc le problème est là, c'est au point de vue qualité. C'est surtout ça le problème.
Absolument. Et quand il y a consultation, pour quels troubles fréquents les femmes consultent votre service ?
Souvent, bon, elles sont surtout référées pour les troubles vasculo-rénaux, donc la pré-éclampsie sévère, ou même des complications bon, plus importantes en fin de grossesse, hein, comme la rupture prématurée des membranes, la menace d'accouchement prématuré, voire plus grave encore, la rupture utérine. Donc, on a toutes les complications, hein, typiques qu'on ne voit pas ailleurs. Donc, nous, on les a encore.
Et comment les traitez-vous ? Plus de paroles ou quel type de traitement vous utilisez ?
Ah non, mais ça dépend du type de complications. Souvent, les complications, quand elles sont gravissimes, comme la pré-éclampsie, quand elle est très sévère, donc là, on indique plutôt la césarienne. Et quand c'est une rupture utérine, donc c'est plutôt la laparotomie. Donc, ça dépend du type de complications. Parce que nous, on est à un niveau donc, de 3 de référence. Donc, souvent, les maternités périphériques nous envoient hein, les patients, puisque ce n'est pas partout qu'on a des blocs. Donc, mm-hmm. Ici, au niveau de notre service, donc on est quand même plus de 15 gynécologues, donc on est à même, le service est ouvert 24 heures sur 24.
Il y a malheureusement
des complications.
Il y a malheureusement certaines femmes qui ne sont pas suivies. Quel rôle jouent les tradipraticiens lors des grossesses au Niger ?
Bon, les tradipraticiens, peut-être les matrons, je voulais dire. Les matrons, c'est elles qui sont plus proches des femmes enceintes. Bon, mais...
Ah, on vous entend pas très bien, docteur Madeleine Garba. On va essayer de vous rappeler très prochainement. Voilà, en attendant, on va continuer de poser nos questions au professeur Bernard. Et donc, il a rédigé un ouvrage qui parle justement de tous ces tracas durant la grossesse et tout, notamment ses bienfaits également. Professeur Bernard Hédon, quels sont les soucis de santé les plus fréquents des femmes enceintes? Docteur Madeleine Garba parlait de pré-éclampsie, notamment.
Elle a parlé de complications graves qui peuvent survenir.
Elle a parlé de graves complications, absolument.
Mais heureusement, les complications graves ne sont pas les plus fréquentes, heureusement. Non, ce que toutes les femmes peuvent connaître, ce sont ce qu'on appelle les petits maux de la grossesse, les petits tracas de la grossesse, le mal de dos, les jambes lourdes,
la fatigue,
le mauvais sommeil, ou au contraire l'hypersomnie, la salive trop abondante, vous voyez, toute une série de phénomènes qui sont d'ordre physiologique, normaux, ou parfois un petit peu d'ordre pathologique, mais qui sont manifestement déclenchés par la grossesse. Donc ça, c'est très fréquent, et ça fait partie de nos consultations quotidiennes.
Il y a quelques soucis durant la grossesse, quelques-uns peuvent être annonciateurs, on pense notamment aux nausées, aux vomissements qui sont courants. Pourquoi ils arrivent à ce moment ?
Alors, on ne sait pas bien quel est le mécanisme intime des nausées, principalement, vomissements parfois, du premier trimestre de la grossesse. Ça arrive surtout à ce moment-là, c'est-à-dire au tout début de la grossesse, au point que certaines femmes savent qu'elles sont enceintes parce qu'elles ont des nausées avant même d'avoir le résultat de leur test. Oui, alors on connaît mal le mécanisme. Ce que l'on sait, c'est que ça passe spontanément. Alors vous allez me dire, rester 3 mois quand même avec des nausées, donc attendre la fin du premier trimestre que ça passe spontanément, certaines le supportent mal. Alors il y a quelques petits trucs, c'est fractionner les repas.
Oui, voilà.
Voilà, donc le gingembre aussi peut faire, avoir un quart de biscuit dans sa poche, et quand la nausée arrive, hop, on mange ce quart de biscuit, donc on fait un tout petit grignotage, et ça suffit à faire passer l'épisode de nausée. Il y a aussi des médicaments, mais ces médicaments qui ont une efficacité relative traiter les nausées, parfois ça marche pas très bien, sont des médicaments qui sont principalement à visée neurologique et sont moyennement conseillés, quoi. Alors quand c'est indispensable, parce que on est toujours dans le cas de la balance bénéfice-risque, s'il y a vraiment des nausées insupportables, on va prendre le médicament, mais si les nausées sont, pour ma foi, on arrive à les gérer, comme on sait qu'elles vont guérir spontanément, bien souvent ça permet d'éviter la prise de médicaments au premier trimestre de la grossesse.
Parce qu'il faut rappeler qu'on ne s'auto-médicamente pas seul, en tout cas durant la grossesse, c'est très important chez la femme enceinte. Mais quand est-ce que ça devient inquiétant, ces nausées ?
Alors, quand elles retentissent sur le poids et la forme physique, lorsque les nausées se traduisent surtout par des vomissements et donc par une perte d'eau, de liquide, mais aussi de tous les nutriments qu'il peut y avoir, donc ça entraîne un amaigrissement, voire une déshydratation. Alors là, non, c'est sûr, là on est dans le domaine pathologique, et à ce moment-là, il faut consulter, bien sûr, on traite contre les nausées et les vomissements, mais on rééquilibre aussi, de point de vue corporel, l'hydratation et la nutrition.
Merci professeur Bernard. Et donc on va reprendre en ligne docteur Madeleine Garba. Madeleine, vous...
Allô, oui.
Oui, docteur.
Oui, je suis à l'écoute.
Bon, désolé, on a été coupé, les aléas du direct, on va poursuivre notre interview. Alors, je vous demandais justement le rôle, est-ce qu'il y a peut-être même un rôle des tradipraticiens lors de la grossesse au Niger ?
Non, les tradipraticiens, moi je dirais plutôt les matrones, c'est elles qui sont plus, qui entourent plus les femmes en milieu rural.
Et quels sont leurs rôles du coup ?
Mais de l'accompagnement, de conseils, voilà. Donc, certains bons moments faisaient les accouchements, accompagnaient. Mais là, on opte plutôt pour la qualité, donc au niveau des infirmiers, pour ces accouchements. Les matrones, c'est surtout pour l'accompagnement, quand même, ce qui est important.
Du point de vue sociologique. Et est-ce que vous avez un message à faire passer, docteur Madeleine Garba ?
Le message, en fait, c'est que au niveau surtout pour les autorités, pour qu'il y ait plus de formation sur place au niveau des spécialistes, et également pour que toutes les écoles de formation, que ce soit médecine et les paramédicaux, sages-femmes infirmiers, pour privilégier la qualité. D'accord ? Et un autre appel également pour qu'au niveau de nos salles d'accouchement, pour que les sages-femmes expérimentées restent dans les salles d'accouchement. Parce que c'est très important, d'accord, ce rôle de compagnonnage des sages-femmes expérimentées. Que ce ne soit pas les plus jeunes qui soient au niveau des salles d'accouchement. Voilà, vraiment, c'est le message.
Ce message important. Merci beaucoup, docteur Madeleine Garba. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricienne à la maternité Isaka Gazobi, enseignante à la faculté des sciences de la santé de Niamey.
RFI à Niamey, 96.2 FM.
Flamine nous appelle de Kinshasa en République démocratique du Congo. Flamine, bonjour. Allô, Flamine ?
Bonjour.
Bonjour à vous, on vous écoute.
Allô, bonjour.
Oui, on vous entend.
Bonjour, docteur.
Oui, bonjour.
Moi, je tiens à vous poser, c'est mon cas. Première question, c'est quelles sont les causes de la pré-éclampsie pendant la grossesse ?
Et puis, les deuxième,
Quel est le traitement approprié pour éviter ça.
D'accord. Juste pour répéter un petit peu, parce que c'est vrai que la ligne n'est pas très claire, Flamine se demande donc les causes de la pré-éclampsie et les traitements appropriés peut-être pour l'éviter s'ils existent.
Alors, les causes sont non maîtrisables par la patiente. Hein. Il s'agit donc de ce qu'on appelle de causes vasculaires, celles qui ont une tendance à avoir des vaisseaux un peu rigides, et c'est comme ça, et donc tendance à avoir de l'hypertension artérielle, sont plus sujettes que les autres à avoir une prééclampsie.
D'abord, c'est quoi la prééclampsie ? Peut-être rappeler c'est quoi ?
Une prééclampsie, c'est une maladie vasculaire qui se traduit par de l'hypertension et de la rétention d'eau. Et cette rétention d'eau qui se produit un petit peu partout dans l'organisme, c'est-à-dire qui gonfle les jambes, mais qui va gonfler aussi un petit peu les alvéoles pulmonaires, donc on respire moins bien, qui va gonfler un petit peu le péricarde et donc gêner la contraction cardiaque, peut prendre une importance telle que ça crée un état de qui met en danger la vie. Et ça se produit aussi dans le cerveau, ce gonflement, cette rétention d'eau, et ça donc déclenche des crises convulsives. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'éclampsie, ce sont les crises convulsives qui sont tout à fait caractéristiques. Mais ça traduit simplement cette anomalie vasculaire de la rétention d'eau et de sel excessive dans le corps, souvent liée à une maladie hypertensive.
Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent alerter sur cette prééclampsie?
Ah oui, on la dépiste, on la recherche systématiquement. Hein, c'est la prise de poids excessif, voilà, qui traduit la rétention d'eau et de sel, hein, l'œdème dans les jambes. Et d'un point de vue biologique, ben on a des protéines, de l'albumine dans les urines et parfois de manière très importante. Cette perte d'albumine tend à augmenter la rétention d'eau et de sel et donc aggrave considérablement la pré-éclampsie. Donc voilà les signes que l'on dépiste et ça explique pourquoi on fait systématiquement une bandelette urinaire chez la femme qui consulte pendant la grossesse. On cherche le sucre, ça c'est pour le diabète, mais on cherche aussi les protéines, ça c'est pour la pré-éclampsie.
Flamine, est-ce que le professeur Edon a répondu à toutes vos questions ?
Oui, maintenant là, je voulais savoir, pendant la grossesse, quels sont les médicaments à prendre pour éviter ça ?
Ah non, alors c'est on ne donne jamais de médicaments de prévention, d'abord parce qu'il n'y en a pas, et puis parce que si on donnait des médicaments à toutes les femmes enceintes, on aurait plus d'effets secondaires liés aux médicaments que d'effets positifs de prévention des pré-éclampsies qui peuvent arriver, mais qui sont quand même pas si fréquentes que cela. Donc non, il n'y a jamais de prise systématique de médicaments. Sauf chez celles qui ont une maladie hypertensive, et là, c'est le même conseil que l'on donne à chaque fois qu'il y a une maladie qui préexiste à la grossesse, il faut absolument que cette maladie soit équilibrée avant de débuter la grossesse. Donc le conseil, c'est de consulter avant la grossesse pour dépister ces choses-là, et s'il y a une anomalie, donc d'avoir un traitement préalable pour être parfaitement équilibré quand on débute la grossesse.
Merci beaucoup pour votre appel, Flamine, et puis bonne journée en République démocratique du Congo. Direction à présent, le Cameroun, où Divine est en ligne. Divine, bonjour.
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 Allô ?
Oui, on vous écoute. Vous êtes en ligne. Vous êtes en ligne, Divine.
Oui, bonjour à vous, studio. D'accord. Alors, ma question était la suivante. Je voudrais savoir si un chlamydia peut être la cause de la sténospermie et également si c'est une cause pour boucher les trompes. Parce que ça fait presque 10 ans si je ne me trompe pas, que je suis à la recherche d'un enfant avec mon papa et mère. Et d'après les analyses à l'hôpital, on a dit qu'il souffre d'un asténospermie. Donc, je voudrais savoir également s'il y a des traitements pour la sténospermie également.
Professeur, une réaction par rapport au témoignage de Divine?
Alors d'abord, le chlamydia, c'est une maladie sexuellement transmise qui est extrêmement fréquente et qui effectivement crée des infections génitales. Chez la femme, cette infection génitale peut aller jusqu'à boucher les trompes, comme elle l'a dit. Chez l'homme, oui, ça peut altérer le sperme. Maintenant, du point de vue fréquence, au moins sous nos latitudes, dans notre pays, en France, les causes de l'asténospermie sont assez rarement lié à du chlamydia, à une maladie sexuellement transmise. C'est le plus souvent d'ordre congénital, c'est-à-dire des spermatozoïdes qui sont mal formés par le testicule. Voilà, donc c'est difficile, là, à l'occasion d'une émission de radio, de dire oui, il faut traiter le chlamydia dans le cas de votre conjoint parce que ça peut être la cause de cette asténospermie. Ça peut éventuellement être en rapport, mais il y a beaucoup d'autres causes d'asténospermie.
Merci beaucoup, Divine, d'avoir apporté votre témoignage et posé toutes ces questions au professeur Bernard. Et donc, professeur, on a une question de Facebook, Marco, du Cameroun, toujours. Ma cousine a accouché 3 fois par césarienne. Le docteur lui a dit qu'elle avait un petit bassin et qu'elle ne pouvait pas accoucher par voie basse. Est-ce qu'il y a un nombre limité de césariennes?
Alors, autrefois, on disait 3, mais on le dit plus. On le dit plus parce que... Oui, ça a changé. Il faut bien que heureusement, le monde change, mais surtout la médecine évolue et puis on a des arguments scientifiques de plus en plus solides grâce aux expériences accumulées, aux publications, à la littérature. Il n'y a plus de limites vraies aux césariennes. On avait peur qu'au-delà de 3 césariennes, la cicatrice utérine soit d'une telle fragilité qu'une 4e grossesse entraîne une rupture utérine, pas fragilité utérine. Bon, non, ça n'est statistiquement pas démontré, donc pas d'inquiétude particulière. On peut en avoir une 4e, voire une 5e. Faut garder un bon sens. Plus on intervient, vous savez, tant de fois on va la cruche à l'eau qu'un jour elle se casse. C'est toujours pareil. Et c'est la même chose au niveau de l'utérus. Il faut rester raisonnable, mais il n'y a pas de nombre limite, fixe limité.
Très bien. Issa nous appelle de la région parisienne. Issa, bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour.
La question que j'aurais posée est la suivante. Je voudrais savoir si le fait... de faire des rapports sexuels pendant la grossesse facilite l'accouchement
ce n'est pas une méthode de déclenchement de l'accouchement.
Pardon?
Non, je disais avec le sourire que ça n'est pas une méthode de déclenchement de l'accouchement. Non, les rapports sexuels sont autorisés au cours de la grossesse, n'entraînent pas de complications, mais ils ne facilitent pas ni le retournement du bébé, ni l'accouchement, ni quoi que ce soit.
Vous avez entendu donc, ça?
Vie non, bisexuelle.
Aucun inconvénient.
Non, aucun inconvénient. Vie sexuelle normale, comme on le sent, et sans utiliser le rapport sexuel comme un outil thérapeutique, ni comme étant un danger excessif.
Merci. Merci beaucoup Issa de nous avoir appelé. Professeur Bernard Hédon, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur la prise de poids qui est importante durant la grossesse, c'est un peu un fil conducteur. Pourquoi c'est important de ne pas prendre trop de poids? On a eu beaucoup de questions aussi là-dessus.
Alors, c'est important parce que d'abord, c'est un signe, l'excès de prise de poids peut être un signe qu'il y a une rétention d'eau dont on vient de parler, la fameuse pré-éclampsie. Donc, c'est pour ça que le médecin surveille avec sa patiente toujours attentivement le poids. Alors, si on en reste sur la non-rétention d'eau, mais la simple prise de poids liée au fait que on fabrique un bébé, on a un placenta, il y a dans l'utérus, il y a aussi une certaine quantité de liquide amniotique, donc d'eau, on estime que le poids acquis par cette création, en quelque sorte, est de l'ordre de 9 à 15 kilos maximum. Donc tout ce qui serait au-delà de ça, soit c'est de la rétention d'eau excessive et à ce moment-là, la fameuse prééclampsie, soit c'est de la graisse. C'est de la graisse et à ce moment-là, d'accumuler de la graisse, ça ne facilite en rien l'épreuve sportive que la femme va devoir aborder un jour, qui est l'accouchement. D'où le fait qu'on accouche mieux quand on a réussi à contrôler son poids convenablement. Les tissus sont moins rigides, se dilatent plus facilement, l'efficacité musculaire de l'utérus, éventuellement l'efficacité musculaire musculaire, de la poussée volontaire de la femme est meilleure. Voilà, toutes les raisons pour lesquelles donc il est raisonnable de faire attention à sa prise de poids afin de dépister les excès qui sont, bah, comme toujours, quand on emploie le mot d'excès, c'est nuisible.
Donc on oublie la phrase « manger pour deux hein ».
Voilà, non, on ne mange pas pour deux, on mange normalement et on vise une prise de poids, mais sans être des mathématiciens non plus. Hein. On vise une prise de poids de l'ordre de 9 à 15 kilos maximum.
Professeur Bernard Hédon, on parle très peu du papa durant la grossesse. Quelle est la place du papa?
On a tort parce qu'il y en a un de papa.
Il y en a un, mais bon, on l'oublie un petit peu durant ces 9 mois.
Et parce que les phénomènes physiologiques sont le privilège de la femme et de son corps. Donc ça se passe à l'intérieur du corps de la femme. C'est elle qui en a à la fois les ressentis positifs, agréables, parfois aussi les inconvénients. Ben, le papa, donc, il accompagne tout ça. Il est trop heureux qu'il y ait un joli bébé auquel il a contribué, qui puisse se former dans le corps de son épouse. Et donc, ben voilà, et il est là à côté de la femme et il l'accompagne tout au long.
Et il y a une nouvelle étude que j'ai vue qui dit que leur taux de testostérone diminue à l'approche de l'enfant et ils sont victimes de dépression postpartum au même titre que les mères.
Ah, écoutez, les pères ça n'a pas été mon cas. Hein, la testostérone, j'en sais rien parce que je n'ai pas dosé, mais la psychologie, non.
Mais il s'agira en tout cas que plus de 10% des pères sont concernés par cette dépression périnatale, presque autant que les mères qui sont touchées, elles, à hauteur de 12%. Est-ce que ça vous paraît plausible et est-ce que ça paraît pas peut-être énorme?
Si, ça me paraît énorme. Et bien franchement, c'est pas mon expérience. C'est alors ni mon expérience personnelle, ni même mon expérience de médecin. Hein. On voit parfois les pères un petit peu effacés, gênés, timides, parce que justement, il se passe tellement de choses pour la femme qu'ils se sentent un petit peu comme un intrus. Mais bon, depuis qu'ils sont non seulement admis, mais même encouragés, mais sans obligation bien sûr, à venir participer à l'accouchement absolument. En salle de naissance, cet effacement tend à disparaître et ils sont là, au contraire, aux petits soins pour leur épouse et ils prennent de plus en plus part à tous ces phénomènes extraordinaires qui se réalisent.
Donc il faut les inciter à vivre ce bel événement des 9 mois.
Ouais, bien sûr, en tout cas je ne les vois pas déprimés, hein. Ça c'est pas mon expérience personnelle.
Ça peut arriver, mais en tout cas, on espère plutôt le contraire. Pour conclure, professeur Bernard Hédon, parce qu'on arrive presque à la fin de cette émission, est-ce que vous pouvez nous révéler, selon vous, vos 3 béaba pour bien vivre sa grossesse?
Ah, je dirais en premier lieu le bonheur. Hein. Être heureux, c'est un événement extraordinaire dans la vie d'une femme et d'un couple. Et donc, il faut pouvoir le vivre pleinement heureux. C'est trop précieux pour que ça se passe dans la routine quotidienne. Voilà. D'abord, être heureux. Mmh. Ensuite, je dirais, même si c'est un événement tout particulier qui modifie beaucoup de choses dans le corps, qui a des connotations médicales, non, il faut rester le plus près possible de sa vie normale, de sa vie habituelle, qui a permis la mise en route de la grossesse, de décider d'avoir un enfant et puis de le faire ensemble. Voilà, de le mener à terme ensemble avec son conjoint. Il faut vivre normalement, sans médicaliser de manière excessive, sans se prendre la tête à propos de tout et de rien. Bon, quand on a des questions, il faut les poser. On est là en tant que médecin pour y répondre. Le livre que j'ai coordonné au nom du Collège National Gynécologue-Obstétricien sert aussi à ce genre de choses, à répondre aux questions, mais il ne faut pas vouloir médicaliser à l'excès.
Donc bonheur, normalité et s'informer. Professeur voilà. Bernard Hédon, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Rappelons que vous êtes professeur de gynécologie obstétrique et de médecine de la reproduction, ancien président du Collège national des gynécologues et obstétriciens français et donc le co-auteur de l'ouvrage Le Grand Livre de ma grossesse aux éditions Erol. Et merci également à France Bleu Hérault qui vous a accueilli dans ses studios.
Merci beaucoup. Au revoir.
Priorité santé sur RFI.
À présent, nous faisons le point sur la mise en place de la télécommunication d'ophtalmologie dans les magasins d'optique. Nous en parlons avec Dr Thierry Bourg, président du Syndicat national des ophtalmologistes de France. Bonjour Monsieur Bourg.
Bonjour.
Alors, le SNOF s'oppose catégoriquement à la mise en place de téléconsultations d'ophtalmologie dans les magasins d'optique. Expliquez-nous pourquoi.
Eh bien, les médecins ophtalmologistes, ce sont donc des médecins formés en 10 à 12 ans. Les opticiens sont des techniciens supérieurs qui sont formés en 2 ans, dont l'objectif est de commercialiser les équipements optiques et de les mettre au point. ne sont pas destinés à manipuler des appareils médicaux. Et l'enjeu de ce protocole, on le voit bien, c'est de vendre plus de lunettes. Le nôtre, c'est de soigner les patients, éventuellement leur prescrire des lunettes s'ils en ont besoin, mais c'est pas de loin d'être toujours le cas. Et on ne peut pas examiner complètement un patient à telle distance, surtout si on ne le connaît pas. L'intérêt du patient, il nous semble, c'est d'être soigné par une personne compétente et de pouvoir lui faire confiance. Donc, il ne doit pas y avoir de collusion entre la prescription et la vente. Il y a un vrai problème déontologique pour nous avec ce type de protocole.
Vous parliez à l'instant de la formation. Est-ce que vous proposez une alternative ?
Alors oui, alors quels sont les enjeux en fait actuellement ? C'est d'une part d'équilibrer en premier les départs en retraite des ophtalmologistes et des arrivées. Actuellement on en forme 150 par an, il faudra en former au moins 200, ce qui est tout à fait possible, parce que c'est une spécialité qui est extrêmement attractive pour les étudiants. Il faut savoir que 80% des étudiants actuellement qui veulent devenir ophtalmologistes ne peuvent pas parce qu'il y a un numérosclerosus limitatif. Il faut développer les délégations de tâches que l'on fait avec les orthoptistes depuis une quinzaine d'années et qui prennent beaucoup d'ampleur actuellement. Dans les zones sous-dotées, on peut également s'aider d'infirmières. Là, on ne trouve pas d'orthoptiste. Et vous savez également que le plan santé a poussé la création d'assistants médicaux. Donc ça, c'est des solutions qu'il faut pousser. Après, qu'est-ce qu'on peut proposer aux gens actuellement pour faire face à la situation ? Eh bien, d'une part, nous, on pousse, et les pouvoirs publics vont également pousser dans ce sens-là, la création de cabinets secondaires, soit en site propre, soit dans le cadre de maisons de santé qui sont des sites plus légitimes pour faire ce type d'examen. Il y a également des logiciels de rendez-vous qui sont en train de se développer par Internet qui permettent de libérer des plages à délai court, et c'est ce qu'on pousse actuellement les ophtalmologistes à faire. Il y a toujours la possibilité également de passer par son médecin traitant en cas de problème vraiment urgent ou semi-urgent qui lui vous adressera un ophtalmologiste, et en général les ophtalmologistes dans ce cas-là trouvent des délais quand même tout à fait acceptables. Et enfin, il faut souligner qu'il existe, et ça a été renforcé depuis 2016, la possibilité de faire renouveler ses lunettes directement chez l'opticien avec une ordonnance qui est encore valable. Alors, c'est de 3 à 5 ans chez les adultes en fonction de leur âge, hein. 5 ans en dessous de 42 ans. Et ça devrait permettre normalement de faire face aux besoins de lunettes en tout cas. Mais le vrai problème, c'est d'arriver à faire face à l'augmentation des pathologies. Et pour ça, il faut des ophtalmologistes et augmenter les délégations de tâches.
Notamment en parlant d'ophtalmologistes, vous parliez tout à l'heure des délais plus courts. L'idée justement de ces consultations, l'argument en tout cas qui est avancé, c'est surtout la longueur interminable pour avoir un rendez-vous chez l'ophtalmologue.
Oui, alors l'adresse a publié, l'adresse donc c'est le service du ministère de recherche qui a publié une étude récente sur les délais. Et on voit que la moitié des délais sont des consultations sont données à des délais inférieurs à 52 jours. Donc c'est beaucoup moins que ce qu'on dit actuellement et c'est moins que les études antérieures. Donc on est en train de basculer vers des délais plus courts. Et le vrai problème, ce n'est pas tellement les délais pour les consultations de suivi ou périodiques, c'est les délais pour les gens qui ont besoin d'une façon rapide ou urgente des consultations. Donc on pousse actuellement effectivement à mettre en place des plages spécifiques pour ces cas-là et on pense qu'on pourra y arriver notamment avec les logiciels de rendez-vous, mais il est nécessaire qu'il y ait suffisamment d'ophtalmologistes formés.
Merci beaucoup, docteur Thierry Bourg. Je rappelle que vous êtes donc le président du Syndicat national des ophtalmologistes de France. Priorité santé touche donc à sa fin. Merci à toute mon équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Steven Elsi, à Cétou Samaké et Ophélie Lassent. Je vous retrouve lundi dans Priorité santé pour une émission spéciale sur les AVC. Si vous voulez témoigner ou poser une question, n'hésitez pas. Le numéro de téléphone de l'émission, c'est 33 1 84 22 75 75. Il y a également notre page Facebook Priorité santé. Nous attendons vos témoignages.
C'était Priorité Santé avec Sunwa Assurance qui vous propose l'assurance habitation pour protéger vos biens, vos proches et votre voisinage. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.